Charlène. Hop. Il y a école du dimanche. Alors je vais laisser partir les enfants. Hop, Dylan. Et hop. Voilà. Donc apparemment l'école du dimanche commence aujourd'hui. En bas. Et ce matin, mon sujet, c'est la grâce distribuée. La puissance de dire non. Vous savez qu'il y a une banque française qui a un logo. Et son logo, c'est le pouvoir de dire oui. Et bien, la chose extraordinaire, c'est que Dieu nous donne la puissance de dire non. Alors, je vais vous expliquer. Lorsque l'homme s'est affranchi de Dieu, lors de la première déclaration d'indépendance, quand on parle de l'indépendance, on parle du 4 juillet pour les Américains, on parle du 14 juillet pour nous, mais il y a eu une première déclaration d'indépendance, et celle-là a été très négative. C'est lorsque Adam et Ève ont décidé d'être indépendants par rapport à Dieu. Ils ont mis en doute la parole de Dieu. Et l'homme a décidé de choisir, lui, ce qui était bien et ce qui était mal. Il a rejeté la suprématie de Dieu et a décidé de mettre moi, la sienne, en avant. Il a mis en avant le soi, son autorité, plutôt que l'autorité de Dieu. Au nom de la liberté, Dieu a malheureusement honoré son choix. Créé à l'image de Dieu pour porter son esprit, vivre en relation avec lui, ce rejet a vidé sa vie de son sens. La conséquence directe, c'est que plutôt que d'être libre, maintenant, il est incapable de diriger sa propre vie. Il y a dans son cœur un vide que seul Dieu peut remplir. D'une vie dirigée, connectée, programmée pour être dans la présence de Dieu, le nouveau système opératoire est hors de contrôle. La synchronisation est déconnectée. L'homme regarde à l'immédiat plutôt qu'au long terme. Il y a du chaos plutôt que de l'harmonie. La peine au lieu de la joie, la souffrance, l'amertume, l'isolation, l'incompréhension, c'est son lot quotidien. Sa rébellion, cette décision tragique, la Bible l'appelle la chute. Et elle a été transmise à toutes les générations, et la nôtre y compris. Dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, au verset 23, que nous connaissons bien, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, ou de la gloire de Dieu. » Mais il y a un « mais ». Il y a un « mais ». Juste derrière. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen du rachat. C'est ça le mot rédemption. Rédemption, c'est rachat. Par le moyen de ce rachat, nous avons la rédemption, nous sommes rendus justes, pas le péché. Et c'est pour ça que j'ai introduit mon message ce matin, un slogan. Et un slogan qui serait bien que chaque chrétien puisse acquérir. Du pouvoir de dire oui au péché à la puissance de dire non au péché. Dire oui au péché, ça nous paraît tellement inéluctable. On ne peut pas s'empêcher. Oh, j'ai essayé de résister, mais ce n'est pas possible. Vous savez, on est à la diète, on ne doit pas aller au gâteau et on va à la pâtisserie. Et on regarde. Ben, j'y ai pas droit, tout ça. Et puis on reste, et puis on dit, oh, allez. Bon, un gâteau, ça va pas changer grand-chose. Et c'est avec plein de choses comme ça, non? Où finalement, on se trouve toutes les excuses pour dire c'est pas grave. C'est pas grave. Mais le péché, c'est grave. C'est pas un gâteau le péché. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Et c'est une conséquence dramatique. On vient de le voir. La grâce, on l'a vu, on connaît cette définition. C'est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. La manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Alors qu'on était encore pécheurs. Et c'est ça la grâce. Mais la grâce, c'est pas un acte passif. Nous, on considère la grâce, voilà, comme bah, ça m'est tombé dessus. J'ai rien demandé, comme a dit Pierre ce matin. J'ai rien demandé. Dieu, il a fait quelque chose. C'est ça la grâce. Oui. Mais pas que. Et mon propos dans les prochains messages, c'est un peu ça, c'est d'être distributeur de cette grâce. De pouvoir la transmettre. Et on va faire un exercice ensemble tout à l'heure. De pouvoir transmettre. Pourquoi? Parce que la grâce, elle est infinie. Parce que la grâce, je crois que j'ai une slide là-dessus, elle est incroyable. La grâce, elle est universelle, elle est offerte à tous les hommes. La grâce, elle est sans pareil. Et la grâce, elle est parfaite. La grâce, elle est infinie. C'est un chant qui le dit, hein. Elle est incroyable. Elle est amazing, hein, les Anglais disent. La grâce, elle est universelle. La grâce, elle est sans pareil. La grâce, elle est parfaite. Et on voudrait tellement garder ça précieusement dans notre poche. Je l'ai, je le garde. Il y avait un vieux film, c'était une vieille pièce de théâtre qui s'appelait J'y suis, j'y reste. Mais là, je l'ai, je la garde. Mes amis, cette grâce inéluctable, cette grâce incroyable, cette grâce infinie, cette grâce universelle, cette grâce sans pareil, elle est faite pour être distribuée. Distribuée. Donnée. Et ça, malheureusement, ça veut dire que notre qualité de vie change. Que de l'amertume, la haine, le non-pardon, on puisse dispenser l'amour, la compréhension, le pardon à ceux qui nous entourent. Mais ils ne le méritent pas! Mais moi non plus. Rassure-toi, moi non plus. Je méritais la mort. Et Dieu m'a donné la vie. Mais qu'est-ce que je fais avec cette vie? Comment est-ce que je la dilapide? Vous savez, des fois, on peut recevoir des grosses sommes d'argent en se disant, oh, on est en sécurité, et puis on compte pas. Et puis d'un seul coup, on regarde sur le compte, on fait, oula! Il y a une fuite ou quoi? Faut appeler un plombier, là. La grâce, on l'a vu vendredi avec ceux qui étaient là, elle est en contraste avec la justice. Pour nous humains, en tout cas. Elles sont inconciliables. Où la justice est exercée, la grâce n'a pas de place. Où la grâce rend la justice sans effet. Quand un chef d'État gracie un criminel justement condamné, il fait passer la grâce avant la loi, avant le droit. La grâce humaine met donc la justice de côté. Et ça, il faut qu'on le comprenne, mes amis. C'est que nous ne pourrons pas distribuer la grâce tant qu'on ne comprendra pas comment elle fonctionne. Ce n'est pas une question de droit. Ce n'est pas une question de justice. Nous sommes dépositaires de la grâce. J'y reviendrai tout à l'heure. pas parce qu'on le mérite, mais parce que c'était immérité. Et si on n'arrive pas à le donner aux gens qui ne le méritent pas, alors on dit à Dieu, bah, tu t'es trompé. Notre relation avec Dieu est fondée uniquement sur sa grâce. Ce que nous sommes, on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, au verset 10, Paul il a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Uniquement. Ma relation avec lui, c'est une relation de grâce. Et je suis là, et nous sommes là, pour introduire d'autres à ce même réseau. Pour offrir la grâce. Être des distributeurs. Je vais y revenir. Là où autrefois, dit Romains chapitre 5, verset 21, là où autrefois le péché a régné par la mort, règne maintenant la grâce par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Là où le péché a régné, dorénavant, c'est la grâce qui règne. Ma question, c'est est-ce qu'elle règne dans notre vie, cette grâce ? Est-ce que finalement on est des ambassadeurs de grâce ou on recherche finalement la justice humaine, le droit ? C'est pas normal qu'on accorde la grâce. Pas à lui. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Qui aurait été dans un jury permis que l'apôtre Paul s'en sorte ? Je pense pas qu'il y ait grand monde. Qui aurait dit, monsieur Moïse, il est capable de délivrer le peuple après avoir tué un Égyptien ? Personne. Qui aurait dit, monsieur David, candidat à la royauté, après ce qu'il a fait au début, on l'aurait mis dans l'arène, n'est-ce pas ? Et Romains 6, 14 nous dit, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas appliquer ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais ça veut dire que la pénalité, la loi, la pénalité, le péché qui a été révélé par la loi, ben nous en avons été, la pénalité, nous en avons été débarrassés. Mais la gratuité, je vais enlever ça, parce que je le reprendrai tout à l'heure. La grâce, si elle est gratuite, j'ai marqué, la gratuité n'est pas sans prix. La gratuité n'est pas sans prix. La grâce, elle est chère, et nous en sommes des témoins présents, parce qu'elle nous appelle à être disciples. Elle est une grâce, parce qu'elle nous appelle à être disciples de Jésus-Christ. Donc, pas de n'importe qui. De suivre Christ. Il a payé le prix, il nous montre le chemin, il nous accompagne. Elle est chère, parce qu'il faut y laisser notre vie. Tout entière. Mais elle est une grâce, parce qu'elle nous offre la vraie vie. Elle est chère, parce que la grâce dénonce le péché. Mais en même temps, elle est grâce, parce qu'elle justifie et relève le pécheur. Elle est chère parce qu'elle dénonce mon péché. C'est pas bien. On a cette petite voix, hein, quand on fait des bêtises. Enfin, j'espère que vous l'entendez toujours. Vous êtes de sourdité d'un seul coup. C'est pas bien. Mais Dieu justifie le pécheur. Elle est chère, parce qu'elle a été chère pour Dieu. Dieu lui-même a offert son Fils. Et dans 1 Corinthiens 6, 20, Paul dit, vous avez été rachetés à grand prix. À grand prix. Et c'est pour ça que moi je trouve incroyable qu'on néglige la grâce. Elle est une grâce parce que la vie de Jésus n'a pas été trop chère. pour sauver nos vies. Et là, on connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mes amis, voilà le prix de la grâce. C'est pas une grâce à bas prix. C'est pas une grâce bradée. C'est pas une grâce qui ne nous fait rien. Si elle nous fait rien, alors il y a un problème. À l'intérieur de l'Église, le pardon est annoncé tous les week-ends, ou souvent en tout cas. Mais lorsque vous sortez des murs de l'Église, la réalité là, elle est tout autre. Elle est même parfois un mystère inexplicable que les gens ont du mal à saisir. On n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que sans pardon, nous sommes coincés. Les blessures de la trahison, l'humiliation, la disgrâce, le déshonneur, la réticence à se détourner des blessures. Il y a des blessures qui font mal, n'est-ce pas ? Il y a des blessures d'il y a longtemps, là. On les croit bien enterrées, mais elles sont là. Et quand on les touche, ça fait mal. Comment récupérer des mauvais choix qui auraient pu, qu'est-ce qui aurait pu être à la place ? Le pardon, j'en parle assez souvent, il est exigeant et il est étonnant. En fin de compte, c'est un choix. Le pardon, c'est un choix, un plan d'action exigeant, mal compris. C'est un mode opératoire de notre vie, de votre vie, de ma vie. Quelques-uns, en dehors de la foi, l'étiquettent comme une folie. C'est pas possible. Ou ils disent, certains, « Oh, votre cerveau a certainement été endommagé. » Jésus parlait souvent du pardon. C'était, et ça continue à être, une grande partie du royaume. Il dit dans Luc 6, 37, « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez. » C'est marrant parce qu'on le cite tellement facilement et whoop, on oublie. J'ai été pardonné, je ne vois pas pourquoi. Je te pardonnerai. Ce pardon ne se limite pas aux faiblesses publiques, aux indiscrétions privées. Il atteint tous les versements mineurs qu'on lui donne. Vous savez, toutes ces petites choses, ces petits mots, ces petits regards, ces petites pensées. On pense que voilà, c'est des grandes choses. Non. On n'a pas besoin de grandes choses pour tuer quelqu'un. Quelques mots, quelques regards, quelques négligences. Et on a vite fait d'oublier quelqu'un. Mais ce sont des choses qu'on empile dans notre banque de douleur. On fait beaucoup de stockage avec des choses méchantes. Et moi, je marquais ici, on les empile dans notre banque. De toutes ces choses qu'on a contre les autres. Soit qu'on a été donateur de méchanceté, soit qu'on a été réceptacle. Récepteur. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais travailler sur deux points. Deux points, quand on parle du pardon, le pardon en Christ enlève toute la condamnation qui va avec. D'accord ? Mais il n'enlève pas forcément les effets. Il ne délivre pas nos corps mortels, il ne nous rend pas immortels, off, dans l'éternité. Et le pardon n'enlève pas les conséquences du péché. Mais il libère celui qui pardonne et celui qui reçoit. Le pardon ne doit pas être gagné. Vous savez, quand quelqu'un nous a trahis, on lui dit, il va falloir que tu regagnes ma confiance. Mais est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance ? Pas sûr. Alors voilà, c'est écrit sur votre écran depuis un moment. Trois choses importantes qui arrivent quand un chrétien pardonne. La première des choses, et c'est elle qui est avant tout, Dieu est honoré. Dieu est honoré parce que c'est ce qu'il a fait pour moi. La deuxième chose, la grâce, elle est expérimentée. La grâce, elle est expérimentée. Je suis passé de la salle de conférence à l'atelier. J'ai entendu parler de la grâce, je l'ai expérimentée. Et la troisième chose, la blessure est guérie. Ces trois choses-là, elles font partie de notre cycle, mes amis. Mais on a du mal à y aller, n'est-ce pas? On a du mal à pardonner. On met une mesure dans ce qui est pardonnable et dans ce qui est impardonnable. Si Jésus avait fait ça, mes amis, ce matin, on serait tous ailleurs. Vous pouvez être une personne qui pardonne facilement parce que Dieu vous a donné cette puissance. Vous pouvez pardonner quelqu'un d'autre parce que Dieu vous a déjà pardonné. Il vous a montré le chemin. Lorsque vous choisissez de refuser de blesser la personne qui vous a blessé, vous écrivez une histoire de grâce sur un puits sans fond de souffrance. Ça, c'est une belle phrase. Allez, pas de moi. J'ai aucune gloire. Lorsque vous choisissez de refuser de blesser la personne qui vous a blessé, vous écrivez une histoire de grâce. Mes amis, on chante tellement facilement des beaux chants, mais on a tellement de mal à les vivre. Faire du bien aux autres. Apporter la paix. Apporter la réconciliation. Votre choix libère non seulement la personne qui vous a fait du tort, mais elle libère ce qu'il y a de meilleur en vous, ce que Dieu a mis. Dans Éphésiens 4, 31, il est dit que toute amertume, toute animosité, la colère, la clameur, la calomnie, ainsi que toutes les formes de malice, qu'elles soient débarrassées. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. On dit oui, n'est-ce pas? On dit on connaît le discours. Tu nous l'as déjà dit, Jean-Claude. On a tellement de mal. On a tellement de mal à déverser cette grâce. On a tellement de mal à porter l'amour. Oh, on parle de Dieu. On connaît l'évangile. Mais est-ce qu'on connaît bien Jésus-Christ? Cela peut-être vous semble impossible. Peut-être vous êtes dans une situation où vous dites, mais Jean-Claude, si tu connaissais ma situation, c'est pas possible. C'est pas possible. Une maman s'est fâchée avec sa fille. Et la petite fille, fâchée, a quitté la maison. Elle a claqué la porte et elle est partie. La maman ne s'est pas inquiétée au début. Elle va revenir. Et puis les heures ont passé. L'enfant n'est pas revenu. Et la maman a commencé à s'inquiéter. Elle a dit, c'est bizarre quand même, elle est fâchée, mais... La police est arrivée. On a retrouvé l'enfant mort, violé, étranglé. Waouh ! Vous imaginez la dernière rencontre, les derniers mots qu'elle a eus avec sa fille. C'était pour se fâcher. Et elle vient d'apprendre là, devant la porte, la police vient la voir et lui dire, c'est une histoire vraie, hein ? Et lui dire, madame, on a trouvé le corps de votre enfant. Oh ! Vous imaginez ce qui peut se passer dans le cœur d'une mère? Et on a fait des poli, on a fait des enquêtes. Et enfin, enfin, on a retrouvé l'assassin. Il a été arrêté. Oh, il a plaidé coupable. Il a été facilement reconnu coupable de meurtre au premier degré. Ensuite, il a été condamné à prison à vie. Et là, on se dit, c'est que justice. La haine a consumé le cœur de la mère comme un poison. Elle dit, je l'ai détesté plus que j'ai détesté personne dans ma vie. Et on peut comprendre. On peut comprendre. J'ai traîné cette haine avec moi partout où je suis allé. Sa réticence a pardonné, a fauté sa vie. Elle était dans une prison sparrow, mais une prison tout de même. Le monsieur était emprisonné et elle était emprisonnée 6 ans après la mort de sa jeune fille. Betty a pris une décision surprenante. Elle a choisi de pardonner à l'assassin de sa fille. Elle a décidé de pardonner. Et là, on se dit, c'est formidable. De chez elle, elle a fait cette prière. Seigneur, pardonne-lui. Elle a été en prison. Elle a demandé à le voir. Et elle lui a dit, je vous pardonne. Il est resté en prison le restant de sa vie, mes amis. Mais elle s'est libérée. S'est libérée d'un poids. C'est pas facile, n'est-ce pas? C'est une histoire tellement horrible. Peut-être le pardon, pour certains, n'a aucun sens. Mais combien nous en avons besoin? Mais combien nous en avons besoin? Au cours de l'été 1993, une autre histoire. Je prends des histoires parce que ce sont des histoires vraies, des histoires qu'on trouve dans les journaux. Et quelque part, quand on parle de pardon, on a un peu de mal à voir qu'est-ce que ça peut représenter, n'est-ce pas? Un homme, c'était à Los Angeles, conduisait avec son camion au travers d'une grande manifestation. Alors qu'il était arrêté, 2 hommes ont ouvert la porte de ce camion, l'ont tiré de son camion, l'ont battu, l'ont frappé jusqu'à ce que les 2 côtés de sa tête soient enfoncés. Les caméras ont filmé, c'était passé à la télé ça. Les caméras ont filmé toutes ces choses. Des mois plus tard, parce qu'il a fallu des mois, alors qu'il récupère un peu, lors du procès, les 2 hommes ont été expulsés de la salle parce qu'eux, ils n'ont pas reconnu leur faute. Et alors que tout le monde allait s'en aller, cet homme qui s'appelait Denis a été voir les 2 mamans. Il les a pris dans les bras. Il a dit, mesdames, je pardonne à vos enfants. Et vous savez, il y avait un journaliste qui était juste à côté. Il a dit, sûrement son cerveau a été endommagé à cet homme. Sûrement son cerveau, et c'est passé dans les journaux, il n'a pas eu que les joues enfoncées, le cerveau a été déglingué. Mes amis, le pardon... Le pardon peut ne pas avoir de sens. Mais nous en avons tellement besoin. C'est ça la grâce. N'est-il pas venu le temps passé de libérer notre stock accumulé de ressentiments, d'amertume, de colère, de nous en débarrasser, d'envoyer son Fils pour nous pardonner et pour nous montrer ce qu'il faut pardonner les autres? On va faire une petite expérience. J'ai distribué de la laine, c'est pas pour tricoter un pull. Voilà. Alors, tous ceux qui ont reçu une pelote, là, vous essayez d'extirper le fil. Ma femme l'avait fait, hein. Mais moi, je suis pas doué. Parce que voilà. Voilà. Alors, je vais le donner à Alice.
Voilà. Charlotte, tu vas le donner à ta sœur et vous allez passer comme ça, là,
pour que tout le monde reçoive le fil. Et vous gardez le fil tendu. Voilà. Vous le passez comme ça. Faut que ça passe tous les rangs. Là, comme ça. Et là, comme ça. Il faudrait que ça aille sur le côté. Peut-être ceux qui sont à gauche à rejoindre le groupe, ça évitera de... Je ne sais pas s'il y en aura assez en longueur. Voilà. Pendant que le fil passe, il est dit, Jésus, il utilise Matthieu 18, 21 à 35, cette parabole où il dit, à propos de ce monsieur qui avait été affranchi, libéré de sa dette, et qui finalement a attaqué celui qui lui devait très peu. Il a été livré au bourreau. Et Jésus dit dans Luc 21, « C'est ainsi que mon Père Céleste traitera chacun de vous, à moins que vous ne pardonniez votre frère ou votre sœur de tout votre cœur. » Pierre a posé la question, hein, jusqu'à combien de fois je dois pardonner? Et Jésus lui dit, non pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. Mais ce n'était pas pour qu'il fasse, il sorte sa règle à calculer. Hein. Mes amis, je fais un rêve. Je fais rêve. C'est qu'à l'église évangélique, le phare de Vigneux, devienne l'église évangélique distribuée. Distributrice de grâce. Qui transforme la grâce. Si tu as trouvé mon chant, ça serait le moment. Écoutez bien ce chant pendant qu'on finit. C'est bon. Merci. Alors voilà, ceux qui maintenant sont en bout de réseau. Donc Charlène, tu vas aller vers Thomas. Comme ça, il n'y aura pas de rupture de connexion. Non, non, il faut que tu le gardes, Thomas. Il faut que tu gardes. Non. Faut, voilà. Faut que tu sois, faut que tu restes accroché au réseau, là. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas connecté, là, avec quelqu'un? Moi. Donc, il faut qu'on connecte. Il faut que quelque part, on connecte. Comment on va faire? Il faut que tu raccroches ton fil rouge au mien. Eh oui, parce que sinon, tu fais un réseau fermé. J'ai pas le droit d'y rentrer. Bah lui, il reste toujours accroché. Voilà. Il faut que ceux qui ont du rouge, ils lâchent un peu. Vous voyez l'exercice qu'on est en train de faire? C'est qu'il y a des gens, on leur permet pas de rentrer dans le réseau. Mais c'est un exercice pratique. On ne sait pas quoi faire. Comment je vais lui présenter? Comment je vais lui parler? Passe-moi le fil rouge. T'arrives pas? T'as fait un nœud? Mes amis, comment est-ce que vous avez eu le morceau de fil dans vos mains? Parce que quelqu'un l'a tendu. Tiens le fil, Thomas. Est-ce qu'il est important, mes amis? C'est ça la grâce. C'est de faire partie du même réseau. Et toi, il faut que tu tiennes aussi. Voilà. Et que pour que chacun nous soyons dans ce réseau, il a fallu qu'un aille vers l'autre. Que un aille vers l'autre. Si on attend que ça se fasse par accident, ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Oh ben. Mon voisin, je prie pour lui depuis 10 ans pour qu'il soit sauvé. Je ne vais jamais parler d'évangile, je ne l'ai jamais aimé. D'abord, je ne l'ai jamais parlé. Alors. Mais Dieu, il peut le sauver. Hein. Mes amis, c'est un tout petit exercice pratique. Mais que Dieu nous aide à être l'église de la grâce. L'église où la grâce coule. Où ceux qui sont à l'extérieur du réseau, on puisse les introduire au réseau. Qu'on puisse les introduire à Jésus-Christ. Parce que c'est la plus belle des choses au monde. Mais ça demandera qu'on se déplace. Ça demandera qu'on prenne du temps. Ça demandera qu'on écoute. Ça demandera qu'on comprenne. Que Dieu puisse nous encourager. C'est un petit exercice. Faites-le entre vous. C'est un peu rapide, là. J'espère que vous avez bien compris le système. Mais que Dieu nous aide à être ses distributeurs. Non pas de laine, mais de grâce. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Amen.